Dear fellow feminists,
I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme?
On ne veut plus rien faire, on ne veut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Nous aussi, on se lève et on se bat.
T'as du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la fin du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans On se lève et on se casse, on parle d'un sujet primordial parce qu'il concerne les enfants, mais dont on peine encore à nommer la violence politique. Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont une majorité d'inceste. Un enfant toutes les 3 minutes. Je sais, vous entendez beaucoup ces chiffres, mais essayez de vous visualiser un peu l'ampleur. Et pourtant, 73% des affaires sont classées sans suite et seul 1% des cas d'inceste aboutissent à une condamnation selon la Ciivise. En face de cette impunité massive, les mères qui tentent de protéger leurs enfants se retrouvent souvent criminalisées, réécrites par la justice et la police comme des femmes manipulatrices, calculatrices, voire folles, suspectées d'inventer, poursuivies pour non-présentation d'enfants, parfois privées de garde, alors même qu'elles signalent des violences de très longue date. Comment la justice française en arrive-t-elle là? C'est notre question. Quel mécanisme transforme les mères en coupables et les enfants en suspects? Mon invité aujourd'hui, c'est Romane Brizard, journaliste qui a enquêté depuis 2021 sur plus d'une centaine de dossiers d'enfants victimes d'inceste en rencontrant des mères de victimes d'inceste souvent en fuite. Elle a publié Inceste d'État aux éditions Stock en octobre 2025, un livre qui montre comment nos institutions, donc la police, la justice, la protection de l'enfance, contribuent non seulement à l'impunité des incesteurs, mais à la mise en accusation des mères protectrices. Romane Brizard, bonsoir.
Bonsoir.
Votre enquête, donc, vous l'avez commencée en 2021, au moment de la parution du livre de Camille Kouchner, La famille Grindé, qui avait fait grand bruit, qui avait eu beaucoup de succès et beaucoup de retours, dans lequel elle parle de l'inceste subi par son frère jumeau. Vous avez commencé votre enquête, au moment du mouvement MeToo Inceste, qui a submergé Twitter de témoignages, que ce soit des victimes que de mères d'enfants victimes d'inceste. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous a poussé à commencer votre travail?
Alors, il y a effectivement la parution de La Familia Grande, qui en fait provoque en partie, en tout cas, la vague de libération de la parole #MeTooInceste sur Twitter à l'époque. Et donc, moi, à l'époque, je suis étudiante en journalisme à l'école de journalisme de Sciences Po et je suis alternante pour Radio France. La journée, je travaille à la radio et le soir, je rentre chez moi, je vois cette foule de commentaires, de posts sur Twitter. Et en fait, je plonge dedans, je lis 1, 10, 100 témoignages, je les lis tous, je remonte au premier. Et c'est le moment où en fait, j'observe une complète dissonance entre ce qui est dit dans les médias à l'époque, à savoir, voilà, on parle de l'inceste, on sort du tabou, on sort de l'omerta, et ce que je lis moi dans ces tweets où des femmes précisément écrivent « Moi, je tente en ce moment même de protéger mon enfant qui vient de dénoncer l'inceste parental, l'inceste paternel, et je n'y parviens pas. Non seulement on ne protège pas mon enfant, non seulement monsieur n'est pas poursuivi, mais en plus de ça, on inverse la culpabilité. C'est moi que les autorités pointent du doigt. »
À ce moment-là, vous êtes alternant, donc vous faites ça en parallèle de vos études, et ça devait être un énorme poids que de lire tout ça.
Oui, j'avais plus vraiment de... Je savais plus vraiment ce qu'était le jour, la nuit. Je lisais ces tweets et puis j'ai commencé à tendre la main à ces femmes qui témoignaient, à leur proposer des interviews simplement pour comprendre au départ. Je suis à ce moment-là alternante. J'ai aucune idée de ce qui va se passer derrière pour moi, à savoir le fait que je vais finalement écouter ces femmes pendant des heures durant tous les soirs pendant 3 mois, puis me dire Romane, peut-être qu'il est temps que tu proposes ta première enquête. Et puis 5 ans plus tard, j'y suis. Encore, je viens de sortir un livre. Effectivement, j'avais pas mesuré déjà l'ampleur du fléau, et puis à quel point ça allait voilà, ça allait parcourir sur toute ma vie à moi. Je ne peux plus me détacher de ce sujet et je pense que ce sera le cas tant qu'on n'avancera pas.
Comme vous l'avez dit, il y a une vraie dissonance cognitive au moment où la famille Grande sort et qu'il y a MeToo Inceste qui arrive, dans le fait qu'effectivement on parle beaucoup d'inceste et beaucoup de libération de la parole, mais finalement la chose elle est vue sous un angle complètement unilatéral, c'est-à-dire ah, on a parlé d'inceste, c'est bon.
Exactement.
Comme si c'était fini.
Comme si c'était fini, comme si le déni qui entoure l'inceste et tous les angles morts autour de l'inceste pouvaient d'un coup voilà, disparaître parce qu'on ose nommer cette torture qu'est l'inceste, parce qu'on ose inscrire ces lettres dans des titres de journaux. Non, on en est loin, parce que ce déni autour de l'inceste et plus généralement autour des violences faites aux femmes et aux enfants, il est ancré dans notre société, il est historique, il est culturel. Et donc... il va falloir des décennies pour le combattre, pour obtenir des droits, tout comme toutes les luttes féministes et enfantistes, en fait. Donc non, on est loin du compte en 2021, on est toujours loin du compte aujourd'hui, et c'est pour ça que c'était très important de sortir Inceste d'État, donc ce livre. C'est important qu'on en parle sur les médias étudiants, voilà, parce que il y a encore du boulot, et moi c'est pour ça aussi que je suis heureuse de pouvoir venir à Radio Campus aujourd'hui, parce que je pense que c'est les nouvelles générations qui vont pouvoir faire bouger les choses. Je le vois en parlant avec toutes mes sources, voire par exemple en parlant avec Camille Kouchner, donc qui a préfacé mon livre. Et qui me dit ton livre me répare, ton livre me donne de l'espoir, parce que vous me donnez de l'espoir, ces générations-là me donnent de l'espoir, celle de nos mères, voilà, elle est quelque part déjà derrière, c'est nous qui allons faire avancer la lutte. Donc, ouais.
Et à l'époque, vous avez été un peu visionnaire, parce qu'effectivement, il y avait cette dissonance cognitive, mais comme on disait juste, ça y est, on en a parlé, c'est terminé, on est arrivé au bout, super, la lutte est terminée, et donc... Il y a aussi le fait que vous avez vu l'angle mort de ce sujet, de se dire bah, qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice pour que finalement rien ne soit fait à la hauteur de l'ampleur de ce sujet. Et à part vous, peut-être qu'il y avait Édouard Durand qui parlait de ce sujet-là et qui disait en fait il y a un vrai problème, il est tellement systémique, il se passe à tellement de niveaux dans la chaîne judiciaire qu'il faut un vrai plan. Mais vous avez quand même vu quelque chose de nouveau et vous avez réussi à voir l'angle qui n'était pas traité.
Alors, je pense que justement, loin d'avoir été visionnaire, j'ai été très naïve et c'est ce qui a permis, c'est ma naïveté qui m'a permis d'asseoir tout ce travail qui aujourd'hui se traduit par un livre d'enquête. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de gens, je crois, quand ces femmes me racontent leur histoire pour la première fois, je me dis, c'est pas possible, on dirait de la fiction. Des femmes qui me racontent que quand elles vont toquer à la porte de la justice parce que leur enfant dénonce l'inceste paternel, non seulement on leur rit au nez, on les soupçonne de manipuler ces enfants, voire même ces femmes en sont privées, les enfants sont placés chez le père. Ces femmes, parfois, fuient leur pays, sont recherchées par Interpol pour pouvoir protéger ces enfants que la justice voudrait obliger à revoir leur père. Moi, quand on me raconte ça au début, j'hallucine, en fait, tout simplement, j'hallucine. Et donc, je me dis, c'est simple, on dirait un thriller, en fait. J'ai rencontré une femme qui serait un raté judiciaire, quelque part, qui me raconte une histoire exceptionnelle, mais qui, en fait, serait un cas isolé. Soit, effectivement, il y a quelque chose que j'ai pas pigé, que personne n'a pigé et qu'il faut donc creuser. Et il s'est avéré que voilà, c'était la deuxième conclusion. Malheureusement, hein, ces femmes sont des milliers en France à subir cette inversion de la culpabilité et ces défaillances judiciaires. Et donc voilà, je pense qu'en fait c'est tout l'intérêt du journalisme, en tout cas d'investigation auquel qui est mon métier et ma passion, c'est de se dire voilà, faut pas partir du principe qu'on connaît les choses en loin de là. Il faut fouiller pour pouvoir comprendre et ensuite pour pouvoir apporter l'information à d'autres, éveiller les consciences, participer à une lutte, parce que on en parlera peut-être, mais je pense qu'il faut aussi une forme d'engagement dans ce métier-là. Souvent qu'on tente de nous de gommer justement chez les journalistes, notamment en école, alors qu'au contraire, je pense que c'est une force inouïe en fait.
Tout à fait. On en parlera. Il y avait une phrase qui m'avait marquée à la fin de votre ouvrage là-dessus. Mais pour continuer, votre livre, il est paru donc en octobre 2025, comme on le disait. Il repose sur l'analyse de 100 dossiers qui correspondent donc à 100 affaires différentes d'enfants qui dénoncent de l'inceste qu'ils subissent et de mères qui les soutiennent. Ça n'est pas votre premier travail sur le sujet, parce que en fait, cette enquête-là, elle vous a permis de décliner le sujet sous différents angles. angles et sous différents formats. Vous avez publié des articles sur le sujet des mères incriminées par la justice alors qu'elles protègent leurs enfants. Pour toutes ces enquêtes-là, et ce que vous racontez, c'est que vous rentrez dans une intimité qui est très forte avec des femmes qui sont en fuite, littéralement, et qui sont en danger, comme leurs enfants. Il faut gagner la confiance de ces personnes qui témoignent. J'imagine que dans ce cas-là, particulièrement, c'est encore plus délicat.
Oui, c'est délicat, et à la fois pas, parce que si on fait ce métier avec conviction et avec la patience... De laisser s'installer la confiance. En fait, pourquoi je suis devenue journaliste d'investigation aussi, c'est parce que à l'époque j'étais donc alternante pour Radio France. Chaque matin en conférence de rédaction, je proposais des sujets, on m'en donnait à faire. Dans la journée, il fallait que j'aille rencontrer ces personnes, que je les enregistre. Elles me parlaient parfois deux heures et puis je gardais 30 secondes à l'antenne pour des sujets d'une minute trente. Alors évidemment qu'il faut des journalistes d'actualité chaude, etc. Mais moi, c'était véritablement quelque chose qui me frustrait. Et je pense que de cette frustration est née une autre façon de travailler, qui est celle de prendre le temps de l'écoute, mais un temps monumental, j'en conviens bien. Je passe parfois des heures avec mes sources avant même de déclencher une interview. Hein. C'est des pré-interviews. Parce que voilà, ces femmes, elles vivent effectivement des scénarios qui sont complètement mais ubuesques, hallucinants. Elles sont en danger, leurs enfants aussi recherchés. Elles risquent la prison quand même. Hein. Moi, il y a plusieurs de mes sources qui ont fait des années de prison pour avoir protégé un enfant, pour être partie à l'étranger. Donc effectivement, c'est des femmes qui ne vous livrent pas ni leur dossier judiciaire ni leurs histoires comme ça. Il faut prendre le temps et là aussi faut pas avoir peur de prendre ce temps là parce que voilà, c'est comme ça aussi qu'on arrive à sortir des sujets qui n'existent nulle part ailleurs, qu'on arrive à faire bouger les lignes sur des sujets qui n'avaient jamais été entendus, vus avant. Et voilà, c'est une chance extrême que d'avoir pu suivre ces femmes pendant 5 ans, les suivre encore aujourd'hui évidemment, d'avoir pu les inscrire dans ce livre qui est un objet que j'ai fait pour elles, parce que voilà, elles sont inaudibles et j'avais besoin qu'elles sachent, qu'elles voient que un objet aussi symbolique qu'un livre leur étant destiné pouvait naître de leur lutte. Voilà, c'est une très belle histoire, malgré la gravité évidemment de ce que je dépeins dans Inceste d'État. Il y a aussi une histoire de résilience, de résistance en fait, qui est sublime et qu'on peut écrire uniquement si on acquiert des relations de confiance avec des sources très très sensibles en fait.
Et il y a aussi une sorte de parallèle, parce que à la fois, même si ces relations, elles prennent beaucoup de temps à s'installer et à se renforcer pour avoir ce genre de témoignage de qualité, à la fois, quand vous avez commencé au tout début votre enquête, que vous avez commencé à demander des interviews, etc., vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de parler, en fait. Parce que le sujet est délicat et c'est difficile d'installer ces genres de relations, mais à la fois, il y a énormément de gens qui veulent en parler, parce que justement, on n'en parle pas.
Oui, et puis parce que, en fait... comme pour toutes, encore une fois, toutes les violences faites aux femmes et aux enfants, mais spécifiquement aux femmes, parce qu'elles sont adultes et en capacité de témoigner pour des journalistes, les femmes sortent du silence quand elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Ne pas être seule, ça ne veut pas dire être audible auprès des médias. Dans un premier temps, ne pas être seule, c'est déjà dire, en fait, je ne suis pas seule à avoir subi cette violence-là. Et... effectivement, c'est vrai pour mes sources, c'est vrai pour les victimes de viol, par exemple, qui se sont reconnues les unes les autres quand elles se sont mises à tweeter sur la manière dont on les accueillait dans les commissariats quand elles venaient déposer plainte, par exemple. Et ben voilà, en lisant d'autres témoignages de femmes qui disaient, ben oui, moi aussi, on m'a demandé quelle jupe j'avais, quelle attitude j'avais face à cet homme que je venais dénoncer. C'est en se lisant, en se reconnaissant, c'est cet effet miroir qui fait qu'on trouve la force, je pense, de s'extraire de cette solitude et de livrer ce témoignage qui va ensuite faire bouger les lignes. Donc c'était effectivement ça mon travail au tout départ, déjà les approcher, leur dire moi j'ai besoin de vous écouter, moi j'ai envie de vous écouter et sachez que j'en écoute plein d'autres, vous n'êtes pas seuls à subir ça, alors venez on se réunit et venez on en parle. Et c'est là où l'enquête prend encore une fois tout son sens. J'ai toujours refusé de faire du portrait par rapport à ces femmes. Je n'ai uniquement, que ce soit dans Libération, que ce soit dans Les Jours, dans toutes les enquêtes que j'ai pu faire sur ces femmes, chaque fois, je croisais leur destin. Jamais je n'ai fait un article où je n'ai parlé que d'une seule femme, parce que c'est ça tout l'intérêt de cette investigation, c'est de montrer que ces violences sont systémiques, qu'elles sont vécues, subies par des milliers de femmes, et que justement, en fait, si on montre leur nombre, si on montre leur pluralité, alors c'est comme ça qu'on peut forcer quelque part le médiatique, le politique à s'emparer du sujet et à vouloir faire avancer les choses, parce que voilà, on ne parle pas d'une femme isolée dans son coin, dans sa chambre, non, on parle d'un fléau sociétal en fait.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
C'était Naïka sur Radio Campus Paris avec son titre Matador. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec la journaliste Romane Brizard, autrice de l'enquête Inceste d'État, quand la justice livre les enfants victimes à leurs bourreaux. On était en train de parler du fait que vous refusiez de faire des portraits de ces femmes-là parce qu'effectivement, c'est un problème systémique, un fléau systémique et massif qui n'est pas reconnu par les institutions judiciaires. Vous écrivez en tête d'ouvrage notamment ce chiffre, donc 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, 22 000 victimes d'inceste paternel, c'est-à-dire 22 000 personnes, enfants, victimes d'inceste par leur père précisément. Et ces chiffres, ils montrent donc ce problème systémique qui n'est pourtant pas pris en charge de manière proportionnée par l'institution. Et vous citez aussi le chiffre suivant, 73% des affaires de violences sexuelles sur mineurs orientées en justice finissent classées sans suite, d'après les chiffres du rapport sénatorial protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles déposé en février 2018, considéré comme non poursuivable dans les trois quarts des cas pour de grandes difficultés à établir les faits. Ça, les grandes difficultés à établir les faits, c'est une expression que vous citez qui est utilisée par les institutions judiciaires pour expliquer que ces affaires-là ne peuvent pas être instruites parce qu'elles manquent de faits, de preuves. Et ces difficultés, vous les exposez d'abord dans la plupart des cas, dans la plupart des dossiers classés sans suite, vous racontez que le terme infraction insuffisamment caractérisé apparaît comme motif pour la plupart des dossiers classés sans suite. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, un classement sans suite, et notamment l'infraction insuffisamment caractérisée, c'est l'argument que va brandir la justice pour dire voilà, c'est très bien, cet enfant a parlé, sauf qu'on n'a pas réussi à prouver sa parole. Un classement sans suite ne veut évidemment jamais dire que l'inceste, que la violence sexuelle, quelle qu'elle soit, n'a pas eu lieu, que la violence tout court n'a pas eu lieu.
C'est important de le rappeler.
Évidemment, ça veut simplement dire qu'effectivement, voilà, la justice n'a pas pu caractériser suffisamment les dénonciations pour aboutir à une procédure judiciaire plus aboutie et, in fine, à une condamnation. Le fait est que ce que je montre dans ce livre, c'est que c'est bien beau de parler d'infractions insuffisamment caractérisées, c'est bien beau de classer les affaires à la suite, à la chaîne, comme si ses paroles et ses vies ne comptaient pas. Le problème, c'est que peut-on véritablement prétendre prétendre classer ses affaires si on n'a pas fait les recherches conséquentes les recherches suffisantes pour pouvoir brandir cet argument-là. Parce que effectivement, on observe à la fois qu'il y a de grandes difficultés à investiguer ces affaires-là pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de failles dans notre système judiciaire. Le fait, par exemple, qu'on auditionne encore des enfants sans formation pour. Donc ça veut dire concrètement qu'un gamin qui vient dénoncer l'inceste peut être interrogé par un agent qui a plutôt l'habitude de recevoir, le voleur du coin ou alors le mec qui s'est battu cette nuit et qui est en cellule de dégrisement ou quoi, en tenue policière avec le flingue à hauteur des yeux de l'enfant. Enfin voilà, déjà ça c'est un premier problème. Ce que je montre aussi, c'est que deuxième problème immense par rapport à la police, l'enquête policière autour de ces dossiers va très 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 souvent se contenter de l'audition de l'enfant, l'audition de son père, l'audition de sa mère et basta. On ne va pas perquisitionner, par exemple, sur les 100 dossiers judiciaires que j'analyse dans ce livre, il y a eu seulement 2 perquisitions. Donc c'est absolument, c'est dingue quoi. Vraiment, moi quand je comprends ça, quand je commence mon enquête et que je comprends ça, je me dis c'est pas possible.
C'est littéralement 2% quoi, c'est rien.
C'est rien. Et là, je vous parle que des failles qu'on observe au sein de la police, parce qu'après il y a effectivement tout le parcours judiciaire auprès des juges. juge, où là aussi il va y avoir des tonnes de failles. Et puis ensuite, auprès de l'aide sociale à l'enfance, parce que plutôt que de condamner, effectivement, on va forcer ses parents à suivre tout un protocole avec des éducateurs, etc., comme s'il s'agissait là, l'inceste, d'un conflit parental et non pas d'une, d'un crime, en fait. Donc voilà, premier constat, c'est effectivement ça. On classe, mais on classe à la chaîne parce qu'en fait, on ne prend pas la mesure, on ne prend pas l'énergie, le déploiement de moyens qu'il faudrait pour pouvoir correctement instruire ces dossiers. Et donc, du coup, quand on est face à ce premier bilan, le deuxième, c'est de mettre les termes, à savoir, effectivement, l'impunité de l'inceste en France, c'est pas la cause, ce n'est pas une question, en fait, juste de manque de moyens, de temps et de formation. Ça, c'est pas la cause de l'impunité. Ça, c'est la conséquence de la tolérance, donc, de tout un chacun, et notamment du politique, de la société française face à la domination masculine sur le corps des femmes et des enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que, tout simplement, si véritablement on avait compris ça, si véritablement on assumait cet ancrage patriarcal de notre société et qu'on voulait lutter contre, alors on mettrait les moyens pour lutter contre l'impunité de l'inceste. Donc voilà, c'est simplement une inversion pour moi, hein, c'est une inversion des charges, des responsabilités de tout à chacun. Encore une fois, je vais reparler de naïveté, mais moi, au tout début de cette enquête, quand j'interroge les ministères et qu'ils me disent « Oui, c'est terrible, hein, l'impunité, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent, en fait. » J'y crois au départ. Et puis voilà, tout simplement, je grandis, je mûris, je me renseigne, notamment sur la littérature féministe, la science féministe, etc., etc.
Et sur l'histoire aussi de la France et de
évidemment,
la pédophilie. Aussi.
Exactement ce que je vous disais en préambule. Notre lien historique est vraiment particulièrement
ancré
historique, culturel, avec la domination masculine et la pédophilie en France.
Peut-être que vous pouvez rappeler pour les auditeurs, effectivement, dans les années 70, je crois, fin des années 70, il y a tout un pan de littérature intellectuelle et d'intellectuels qui se battent pour, je ne sais pas, remettre d'actualité une forme de pédocriminalité qui serait bien vue parce que les adultes, les enfants seraient vus comme des adultes qui ont leur propre liberté et leur propre autonomie. Ce sont des faits qui sont beaucoup plus étudiés aujourd'hui par, dans la recherche française, mais voilà, y a tout un pan de littérature française des années, fin des années 70, début 80 qui... notamment par des tribunes dans Le Monde, dans Libération, et vous en parlez dans votre ouvrage, qui donne la voix à cette tendance.
Oui, alors notamment cette tribune dont vous parlez, c'est la tribune écrite par Gabriel Matzneff. Donc, si on se remet un peu dans le contexte de l'époque, Gabriel Matzneff est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les moins de 15 ans ». Toute sa littérature, ou pratiquement, c'est une littérature qui témoigne de sa propre attirance pour les mineurs, notamment les petits garçons, de la pédophilie assumée de cet homme, de tout son entourage, l'élite de la littérature française à l'époque. Et surtout, cette tribune, c'est un cri contre les poursuites judiciaires, contre les adultes attirés par les enfants et qui abusent de leur corps. Cette tribune, c'est clairement nous refusons que la France continue de condamner la pédophilie, parce qu'effectivement, pour quel motif, en fait, criminaliser la pédophilie. Et c'est une tribune qui est signée par, il me semble, 60 signataires. Enfin, franchement, vous pouvez la retrouver en ligne. Hein.
Oui,
c'est
oui, assez... elle est disponible en ligne. Voilà. Donc, je crois, des figures féministes.
Simone de Beauvoir, par exemple. Beauvoir, voilà, c'est dingue, hein, franchement, quand on découvre la liste Bernard Kouchner également. On découvre la liste des personnes qui ont signé cette tribune, c'est effarant. Ça fait froid dans le dos parce qu'en fait, c'était hier. Et voilà. Matzneff, encore une fois, non seulement une tribune, c'est une tribune, malheureusement. Tout le monde peut
publier des tribunes.
Voilà, tout le monde peut, quand il est un minimum célèbre en tout cas, publier des tribunes. Mais il ne faut pas non plus oublier que Matzneff, c'est le grand invité de la plus grande émission de l'époque, Apostrophe. C'est quelqu'un qui est plébiscité tout simplement. Et c'est aussi cet homme qui a été dénoncé, mais assez récemment, par Valença Springora dans Le Consentement. Donc cette histoire, elle est effectivement... vieille, et en fait, elle est encore bien plus vieille que ça. Parce qu'en fait, si on veut remonter un peu la pendule de l'inceste, et en tout cas de la domination sexuelle des hommes sur le corps des enfants, ben en fait, c'est une histoire de religion aussi, tout ça. C'est une histoire voilà, antique, en fait. Mmh. D'ailleurs, pour redonner un autre exemple que moi, j'avais découvert dans le livre « Les couilles sur la table » de Victor Tuallion. Mmh. Voilà, elle expliquait que en Grèce antique, un petit garçon devenait homme le jour où en fait son précepteur, qui était, si je me souviens bien, la plupart du temps son parrain, donc en fait c'était incestuel, hein, voilà, le déflorait. Voilà, c'était ça, devenir un homme. Et en fait, alors oui, quand je dis ça, sûrement que personne se reconnaît là-dedans à l'heure actuelle. Et pourtant, en fait, les dérives et les cicatrices de ce monde-là, elles sont encore béantes et elles existent d'autres manières. Voilà, la domination des hommes est peut-être moins criante et plus masquée, maquillée, mais elle est tout aussi influente aujourd'hui en France. Ouais.
Donc tout à l'heure, vous expliquez qu'effectivement, ce n'était pas du tout un manque de moyens, mais bien un manque de volonté, et puis surtout un refus de travailler sur ces questions-là et de lutter sur la question de l'inceste en tant qu'État, en tant que société. Effectivement, quand vous parlez à des inspecteurs et à des personnes de la police, on vous dit très gentiment qu'on manque de moyens, donc du coup c'est compliqué, on ne peut pas le faire, même si les personnes sont de bonne volonté, c'est compliqué. Et malheureusement, bon, c'est complètement insuffisant comme raison. Et vous listez notamment plein de problèmes à différents endroits du traitement judiciaire de ces affaires-là qui posent problème, notamment une enfilade de déférence juridique, le manque de structures appropriées pour accueillir des paroles d'enfants et une absence de formation des policiers, ça on en parlait tout à l'heure. Et vous parlez des salles Mélanie que moi je ne connaissais pas, j'en avais aucune idée qu'il y avait effectivement des salles qui étaient déjà construites et déjà perçues pour accueillir des enfants dans de bonnes conditions et pas avec un flingue à la ceinture et en se disant tiens, tu vas me parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà à quel point elles sont déjà répandues en France? En fait, elles sont très peu répandues, et aussi pourquoi elles aident, pourquoi elles sont très importantes dans le recueil, dans l'évolution des méthodes de recueil de ces paroles-là?
Alors, la salle Mélanie, c'est déjà un décor. Voilà, loin de cette salle d'audition lambda d'un commissariat froid, impersonnel, souvent très vétuste aussi, hein, parce que c'est aussi ça, hein, la France et les commissariats français. C'est un décor dans le sens où voilà, ça va être une salle où on va mettre des murs colorés, où on va avoir des petits fauteuils adaptés aux enfants, de couleurs. On va avoir des peluches, on va avoir des poupées, on va avoir des crayons de couleur. Voilà. En fait, c'est quelque part hein, reproduire une salle de jeu ou une chambre d'enfant, en tout cas un lieu accueillant pour un enfant, où il se sente à l'aise, où il se sente en sécurité parce qu'il se reconnaît dans ce décor. Voilà, c'est très bien pensé parce que typiquement, ces poupées-là ne sont pas là uniquement pour rassurer. Elles sont aussi là pour permettre à l'enfant de parler et pas forcément qu'avec les mots. Parce que on le sait, hein, que ce soit sur les adultes ou les enfants, être auditionné, témoigner, c'est à chaque fois revivre aussi le viol, l'agression sexuelle qu'on a subi. Donc il faut tenter de limiter un maximum tout ça. Et donc, par exemple, offrir des peluches ou des poupées à des enfants, c'est aussi leur permettre parfois de montrer sur un autre corps que le leur ce qu'ils ont subi. D'écrire avec aussi leurs petits gestes d'enfants. Des enfants ne peuvent pas, n'ont souvent pas le vocabulaire pour évoquer un viol ou une agression sexuelle, et c'est bien naturel, en fait. Donc voilà, c'est une histoire de décor, mais c'est aussi une histoire de forme, mais aussi de fond. C'est-à-dire que ces salles Mélanie ne servent absolument à rien si les policiers qui les habitent sont des policiers qui ne sont pas formés à l'audition de mineurs. Et donc pour ça, il y a des protocoles en France d'audition à hauteur d'enfants qui sont aussi expérimentés dans d'autres, ailleurs dans le monde, et fort heureusement. Sauf que ces protocoles à hauteur de mineurs ne sont pas généralisés en France, tout comme ces salles Mélanie, donc tant le fond que la forme. Voilà, ça reste encore des moyens inégalement déployés sur le territoire français. On a à peu près 600 salles Mélanie dans les commissariats et les gendarmeries de France, et on a à peu près 2600 policiers et gendarmes formés à l'audition de mineurs. Donc ça veut dire que oui, c'est finalement c'est très très peu. Il y a des promesses politiques, on va démultiplier ces salles, elles vont sortir de terre sur ce laps de temps, et puis en fait on se rend compte que ça n'arrive pas. Donc voilà, encore une fois, on ne met pas les moyens, et ça c'est une question effectivement de volonté politique. Faut pas chercher midi à 14h, hein. Parfois faut juste voilà.
Et ce que vous dites, c'est que ces salles-là et ces protocoles-là, ils sont tellement plus développés dans d'autres pays d'Europe, et la France est significativement très 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 en retard, que ce soit sur la Suède, sur l'Espagne et sur d'autres pays européens.
Oui, en tout cas, on est en retard par rapport à certains pays. Il y a aussi des pays qui font bien moins bien que nous, en fait. Hein, mais en tout cas, il y a des initiatives très intéressantes à aller découvrir et peut-être à porter chez nous. Je vous reparle effectivement de l'Islande, qui est un pays où historiquement, c'est... tout ce cadre, tout ce respect de l'accueil et du recueil de la parole de l'enfant est en place depuis des décennies. C'est vraiment un modèle, notamment avec le modèle des des maisons Barnahus. Donc c'est un peu le même principe que la salle Mélanie, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que, pour vous donner un petit peu en résumé, hein, parce que c'est bien plus profond que ça, mais en fait, l'enfant va être accueilli dans cette maison Barnahus. Encore une fois, le décor, le protocole est vraiment adapté aux mineurs. Sauf qu'à la différence de la France, où on enregistre également ces auditions en France, il y a une vidéo qui est tirée de ces auditions. Les maisons Barnahus en Islande, c'est pareil, sauf que c'est la promesse de l'Islande, on va filmer ces auditions pour que l'enfant n'ait plus jamais à répéter, en tout cas devant les autorités, ce qu'il a vécu. Et ça, c'est énorme.
C'est très important.
Alors qu'en France, même si ces enfants sont filmés lors de l'audition policière, ils vont être amenés chez le juge, auprès de l'aide sociale à l'enfance, à répéter ce qu'ils ont subi. Alors même que les adultes en face d'eux, très souvent, leur disent « Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ?» Et un enfant qui sent qu'on ne le croit pas, ou alors un enfant qu'on fait se répéter et se répéter et se répéter, la parole s'effrite. La parole d'un enfant est très fugace, surtout quand il est intimidé par des figures d'autorité. Rappelez-vous le sentiment que vous aviez quand vous étiez petit et que vous faisiez prendre par votre papa ou votre maman parce que vous avez fait une connerie ou je ne sais quoi. Et ben, imaginez si vous avez cet âge-là et que vous êtes face à un policier en uniforme. Comment révéler l'inceste qu'on subit ? Surtout quand, en plus de ça, à la maison, papa me viole, mais papa me dit aussi, si tu parles, tu vas avoir des problèmes. Si tu parles, je vais te frapper. Si tu parles, maman ira en prison. Si tu parles, papa va mourir.
Il faut se figurer aussi ce que les policiers peuvent dire directement à des enfants, c'est-à-dire, moi j'ai une fille de 12 ans et des larmes de crocodile je connais, de toute façon t'es en train de mentir, etc. Enfin, c'était vraiment des choses abjectes. Il faut se figurer que des enfants en face de ça, évidemment, ne résistent pas. Enfin,
Que j'ai voulu montrer dans le livre. En fait, ce livre, j'y ai mis des pièces judiciaires que d'ordinaire, le commun des mortels n'a pas accès à ces pièces. J'ai notamment mis des traductions, des extraits de procès-verbaux, d'auditions d'enfants face aux policiers qui les accueillent pour la première fois pour entendre ce que ces enfants ont à dénoncer. Et effectivement, j'ai mis cet extrait qui, moi, m'a sidérée. J'en ai fait des cauchemars pendant des mois de voir cette vidéo de deux policiers non formés, en uniforme, qui interrogent une petite fille, révèle tout ce qu'elle a vécu, qui martèle que c'est la vérité, et ces officiers en face qui se moquent d'elle, qui ne la croit pas et qui la suspecte et qui lui disent effectivement « Ah, tu sais, moi aussi, hein, moi, j'ai une gamine de 12 ans, les larmes de crocodile, je connais. Non, t'iras pas voir ta mère. Allez, arrête de pleurer. Bon, alors ton père, il l'a pas fait, on est d'accord. » Voilà, c'est ça qui se passe quand effectivement les gens ne sont pas formés. Et c'est ça qui se passe aussi dans un monde patriarcal. Et il faut bien comprendre que le juge n'est pas juste parce qu'il est juge. Le policier n'est pas meilleur qu'un homme lambda parce qu'il est policier. Au contraire, cette société dans son ensemble souffre de cette société est misogyne et la justice n'y échappe absolument pas.
Bien sûr, elle fait partie.
Et c'est assez dingue de se dire qu'en France, en 2025, tous ces acteurs de la chaîne judiciaire, qu'ils soient policiers, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient éducateurs, etc., ne sont pas obligatoirement formés, en fait. Enfin, c'est quand même le B.A.B.A. Le B.A.B.A. et pourtant c'est une des préconisations de la CIVIS dans son rapport de 82 recommandations au gouvernement après 2 ans de travaux. C'était une des mesures, voilà, s'il vous plaît, former la chaîne judiciaire, et force est de constater que c'est une mesure qui n'est toujours pas appliquée. C'est dingue.
C'est dingue, et ça prouve bien que tous les corps judiciaires font partie de la société à part entière. La CIVIS dont vous parlez, elle rappelle aussi que seulement 3 à 16% des victimes présentent des signes physiques d'abus. Ce qui est très important quand même dans les processus judiciaires, parce que quand on sait ça, normalement on adapte, si on veut lutter en tant que société là-dedans, on adapte le processus judiciaire, on révolutionne le truc en profondeur et on y réfléchit vraiment. Là pour l'instant c'est vraiment pas du tout le cas, donc cette donnée elle n'est pas du tout intégrée par les magistrats, vous avez vu à aucun stade qu'il y avait cette prise en compte là.
Non, et pourtant, en fait, c'est la base de toute procédure. Parce que, en fait, trace, c'est quoi la trace de l'inceste? En fait, la trace indubitable du viol ou de l'agression sexuelle, ça va être... je suis désolée, hein, mais c'est des... voilà, il faut en parler. Ça va être un résidu de sperme, ça va être une fissure anale. Voilà, ça va être des traces concrètes, caractérisées de viol. Effectivement, la plupart des victimes n'en présentent pas. Pour des simples raisons. Parfois, elles se libèrent de ce qu'elles subissent des mois, des années après ce qu'elles ont vécu. Donc, en fait, il est trop tard pour retrouver ces traces-là. Parfois aussi, et en fait, ça, c'est une généralité de cas, surtout chez les enfants. Les enfants ont une peau particulièrement réparate, enfin, qui se répare toute seule. Voilà, parce qu'ils ont une peau bourrée d'élastane, qui referme les lésions, les plaies assez rapidement. Donc c'est pareil, si en fait on n'ausculte pas ces enfants, que les examens médico-légaux sur ces enfants ne sont pas réalisés dans les heures, les jours, mais vraiment tout petit laps de temps, voilà, qui suivent, on est foutu. Et pourtant c'est effectivement la pièce centrale de ces dossiers judiciaires, la première étape quand un enfant vient être auditionné, enfin qu'il y a une plainte qui est déposée, on va l'envoyer faire cet examen médico-légal. Quand le dossier arrive et qu'il est vide, qu'on dit bah voilà, cet enfant n'a pas voilà de traces indubitables de viol. Il y a des traces, hein. C'est-à-dire que la plupart des enfants, par exemple, ont de graves irritations, des petites lésions, etc., etc. Mais c'est le max de ce qu'on trouve en général. Et ce qui se dit, hein, c'est que, enfin moi, pour avoir parlé à beaucoup de médecins aussi qui sont chargés de faire ces examens, c'est qu'ils sont obligés de marquer sur ce rapport. Effectivement, ce n'est pas une trace indubitable de viol. Néanmoins, évidemment que ça pose question, parce que voilà. Mais ce que va répondre la justice, c'est oui, mais il y a d'autres enfants que les enfants victimes qui peuvent avoir des irritations, qui peuvent avoir des lésions. Et c'est la vérité aussi. Mais vous avez raison, c'est là tout le cœur du problème quand on sait à quel point ces rapports médicaux sont faibles, peu fiables. Alors pourquoi baser toute la procédure sur cet examen? Pourquoi ne pas prendre un peu plus en considération non seulement la parole? Pourquoi ne pas plus déployer tous les moyens qu'on pourrait mettre en place pour chercher des preuves, notamment la perquisition, on en a parlé. Enfin voilà, faut véritablement aller plus loin, quoi, parce que là, on oppose simplement... aujourd'hui, en fait, on fonctionne sur le parole contre parole. Et c'est tout. Comment trahir plus l'enfance que de faire ça, en fait, la parole d'un homme contre celle d'un enfant, comme d'hab.
Ensuite, vous parlez aussi du syndrome de l'aliénation parentale. Alors ça, c'était hyper intéressant. J'avais déjà lu Patrick Jean sur le sujet, qui apparaît donc régulièrement dans les expertises et dans les auditions, alors que le concept est scientifiquement disqualifié. Ça n'existe pas, hein, l'aliénation parentale. Enfin, le fait que un enfant raconte ce genre de sévices parce que la mère aurait un rôle sur son enfant, pour le séparer de son père, etc. En fait, c'est un fantasme, plus qu'autre chose.
Alors, en fait, si je peux me permettre, oui. L'aliénation parentale peut exister. Évidemment, il y a des enfants qui se font manipuler par leurs parents, mais pour tout un tas d'autres sujets. Ce qui n'existe pas, ce qui n'a jamais été prouvé, c'est le syndrome d'aliénation parentale. Pourquoi ? Parce que Richard Gardner, donc le psychiatre qui a inventé ce syndrome de toutes pièces, en utilisant le terme syndrome, pathologise le lien mère-enfant.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça qui est un véritable problème et qui, en fait, effectivement, n'a jamais existé. Et lui dit, voilà, il y a 80% des incestes dénoncés qui, en fait, résulteraient d'une manipulation. Comment est-ce qu'il a eu ce chiffre? Est-ce qu'il existe? Non, en fait, la réponse, c'est simplement non. Et ça a été, voilà, critiqué, démonté. Voilà.
Oui, bien sûr, l'aliénation parentale, ça existe, mais le syndrome qui pathologise autant les mères que les enfants, pas du tout. Ce syndrome-là, il est quand même encore aujourd'hui très utilisé en faisant des recherches encore aujourd'hui. J'ai vu une intervention d'un député FN à l'Assemblée nationale qui demandait que ce soit pris en compte dans le cadre d'un homme qui demandait que ses enfants soient rapatriés en France. Comment il arrive dans les dossiers? Est-ce qu'il arrive par les experts, les avocats, les juges? On connaît la réponse, on s'en doute, mais il arrive partout, en fait.
En fait, il arrive par tout le monde. Quand un policier, alors que l'enfant vient de lui révéler l'inceste qu'il dit avoir subi de son père, quand ce policier lui dit « D'accord, ok, mais est-ce que t'es sûr de ce que tu dis? Et maman, qu'est-ce qu'elle dit de ça? Est-ce que c'est pas maman qui t'a raconté ça ?» Là, on est déjà dans le syndrome d'aliénation parentale. Quand un juge... force un enfant à continuer à voir son père parce qu'il n'arrive pas à trancher. Est-ce que ce père est un violeur? Est-ce que cette mère le manipule? C'est de l'aliénation parentale. Et peut-être qu'on peut revenir sur ce point-là de la justice, qui est assez complexe, mais en fait, finalement, pas du tout. Il y a un truc assez simple à dire et que beaucoup de Français ne savent pas. C'est qu'en France, quand un enfant dénonce l'inceste, il va y avoir donc cette audition. Cette audition, elle donne lieu au déclenchement d'une enquête. Cette enquête policière va prendre des mois, généralement 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, aucune obligation de suspendre le lien avec le père. En fait, la justice, pendant ces 2 ans d'enquête, va dire « on ne sait pas ». Donc, monsieur reste présumé innocent. Donc, c'est très bien, t'as parlé, merci, on vous croit, truc mûche. Et en fait, non, tu vas retourner voir ton père. Il existe une loi, la loi Santiago de mars 2024, qui stipule très clairement qu'effectivement, le retrait de l'autorité parentale ou la suspension des liens du père avec l'enfant n'est prévu qu'à partir de la mise en examen. Donc la mise en examen, c'est après ces 2 ans d'enquête. C'est assez dingue de se dire qu'en France, on remet les enfants dans les bras de ceux qu'ils dénoncent comme leurs bourreaux, juste parce que on a peur. Et on a peur de quoi? On a peur de priver un père, un homme, de ses droits. Et c'est ça qui est fondamental. Là aussi, ce système patriarcal et cette misogynie de la justice, elle est tellement visible là-dessus, alors qu'à l'inverse, on va avoir très très peu de mal à condamner les femmes qui s'opposent au maintien de ces liens. Donc, c'est-à-dire les femmes qui refusent le week-end de garde ou la semaine de garde du père de, effectivement, remettre les enfants au père. Là, je peux vous dire qu'elles sont condamnées dans les semaines. Mmh. Alors qu'un père, voilà, on va mettre des années et pendant toutes ces années-là, on va lui remettre cet enfant dans les bras. Mmh. Et ce que je raconte dans le livre, c'est ces enfants forcés de retourner sous le toit de ceux qui les accusent. C'est ces enfants qui... à la fin de l'enquête, disent « ben voilà, ça n'a jamais cessé. Vous m'avez forcé à revoir ce père. Vous m'avez forcé à revivre tous les soirs dans mon lit ce Bataclan, parce que l'inceste est une violence, un traumatisme que les professionnels comparent au traumatisme subi par les victimes d'attentats. »
Bien sûr. Il y a des syndromes post-trauma, etc. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit ? PTSD, je ne sais plus comment le traduire. Oui, bien sûr, c'est équivalent. D'ailleurs, des pères les pères ils sont coupables à 32,7% des crimes sexuels à l'échelle nationale, selon l'enquête Virage sur les violences sexuelles conduite par l'INED en 2015. Et pourtant, cet argument qui est donc fallacieux de se dire bah « non, on ne va pas retirer un enfant à son père, ce serait vraiment trop dangereux », il y aurait 1000 autres possibilités de trouver des compromis, des mesures entre deux pour le temps de cette enquête, pour le temps de cette procédure judiciaire, mais non. Il y a quand même cette force patriarcale qui dit non, on va pas enlever, on va pas dire à des pères qu'ils vont plus voir leurs enfants, ce serait catastrophique.
Mais en fait, qui protège-t-on? C'est vraiment la simple question, moi, que je pose à toutes les personnes, en tout cas qui ont une certaine influence et que j'aimerais pouvoir mobiliser sur ce sujet, c'est qui protège-t-on? Parce que quand on dit ce serait trop grave si on se trompait de retirer cet enfant pendant ces 2 ans à son père. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est complètement capable d'assumer le fait que cet enfant potentiellement va se refaire violer pendant 2 ans, mais qu'on n'est pas capable d'assumer le fait que ce père potentiellement va être privée de son enfant pendant 2 ans injustement. Mais c'est terrible de se dire qu'on fonctionne comme ça dans un pays comme le nôtre. Et c'est même, je vous dis franchement, moi quand je parle de ces livres, de mes enquêtes depuis 5 ans autour de moi, quand les gens là m'écrivent après l'avoir lu, ils me disent mais, enfin, mais personne ne peut savoir qu'il vit dans un tel pays. En fait, on ne soupçonne pas de vivre dans un pays si injuste, si terrible, si abominable pour les enfants. Et la vérité, elle est là. C'est que, en fait, et c'est aussi pour ça qu'il faut sortir du déni. Parce qu'en fait, en refusant de parler d'inceste parce que ça nous fait peur, ça nous fait mal, ça, voilà, ça nous gêne, c'est quelque chose qui est pas cool. Ouais, c'est pas cool l'inceste, mais en fait, en refusant d'en parler, ben en fait, on passe à côté de tout ça, de cette connaissance-là, de notre pays, et du coup, en fait, on devient. Moi, je le dis clairement maintenant, hein, s'engager pour cette cause, refuser ce déni, ben, c'est ne plus être complice. Les personnes qui, parce qu'elles pensent ne pas être atteinte par l'inceste, alors que, comme on l'a dit, en fait, que vous soyez victime, ou que ce soit votre enfant qui vous le dira peut-être dans 50 ans, ou que ce soit son petit copain de classe, parce qu'il y a 2 à 3 enfants par classe victimes, on est tous victimes, on est tous complices de ce système qui fabrique autant de victimes. Vraiment. Et donc, il faut qu'on se lève et qu'on se casse par rapport à ça, vraiment. Il faut qu'on sorte de ce. C'est terrible, quoi.
De ce système de torture, en fait, parce que.
Exactement, ouais. Et d'ailleurs, voilà, il y a des mamans tellement courageuses qui bossent, mais sans relâche, pour faire reconnaître, voilà, ces violences institutionnelles qu'elles subissent pour avoir dénoncé des violences sexuelles sur leurs enfants, et qui ont, voilà, amené le sujet, effectivement, du traitement judiciaire de l'inceste jusque devant le comité contre la torture de l'ONU, pour faire reconnaître, effectivement, ces violences institutionnelles-là comme une torture, parce que c'est une torture. C'est une torture de se dire, non seulement mon enfant a été victime, non seulement je suis victime, parce qu'en tant que femme, ça veut dire que j'ai fait un enfant avec un monstre, un mec que j'aimais, qui a violé mon enfant. Déjà, ça, c'est une torture, mais immense. Bah, alors, en plus, quand vous allez en justice et qu'on vous rigole au nez, et qu'on inverse la culpabilité, et que, en gros, vous avez 2 choix, remettre cet enfant dans les bras de celui qui le dénonce, ou prendre la fuite, quitter votre vie. Mais c'est une torture dans tous les sens du terme.
Bien sûr. On ne se rend pas compte de la précarité de ces femmes qui doivent quitter et laisser tout derrière elles et partir avec leurs enfants du jour au lendemain. C'est une torture.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et vous écoutez On se lève et on se casse, l'émission féministe de Radio Campus Paris. On est toujours avec Romaine Brizard pour parler de son ouvrage « L'inceste d'État ». Comme vous le disiez tout à l'heure, sur les 100 dossiers que vous avez étudiés, seulement 2 enquêtes sont menées correctement avec tous les entretiens qui sont nécessaires, pas seulement 2 ou 3. Est-ce que ces exceptions avaient quelque chose que les autres dossiers n'avaient pas ? Est-ce que ces exceptions-là, est-ce que ces dossiers qui ont été traités correctement, qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient traités correctement ?
La formation des agents qui les ont menés, déjà. Et puis, je pense que c'est une question d'engagement de certains commissariats ou pas sur ces questions-là.
Oui, donc c'est pas les dossiers qui ont quelque chose, c'est vraiment les gens.
Ah oui, non, c'est jamais les. En fait, on nous dit souvent, effectivement, il n'y a pas de preuve, l'inceste est un crime de l'intimité commis entre 4 murs d'une chambre parentale, etc. Vrai, sauf que sans qu'on ait des vidéos ou des photos de ces viols dans tous les dossiers, il existe tout un faisceau de preuves qui pourrait constituer déjà la base d'un dossier. Donc, on a parlé de ces examens médico-légaux. La plupart du temps, voilà, c'est difficile. Mais déjà, l'audition de l'enfant, la parole de l'enfant devrait être bien plus prise au sérieux, peser plus lourd dans ces dossiers-là. Et ensuite, il y a tout un tas de choses. Ça peut être, par exemple, pareil, je suis désolée, c'est cru, mais je vais mettre les mots, un gamin qui se met à avoir des comportements masturbatoires. Si ça doit pas au minimum nous interroger en fait sur pourquoi cet enfant fait ça, est-ce que ça c'est pas déjà un élément à mettre dans ce dossier pour réunir encore une fois tout un faisceau d'indices qui pourrait nous permettre de dire oui, encore une fois, on n'a pas la vidéo, on n'a pas la photo, mais on va peut-être un petit peu regarder de plus près tous ces éléments et puis écouter cet enfant plutôt que de virer sa parole comme ça d'une seconde à l'autre, quoi.
Aujourd'hui, la CIVIS n'est plus dirigée par les mêmes personnes qu'elle l'était à sa création. Édouard Durand a été écarté de ses fonctions. Est-ce que ce changement de gouvernance, ça relève aussi de ce que vous appelez l'inceste d'État, ou est-ce que c'est plus compliqué ?
Je pense que la civise, en général, est l'exemple, oui, typique de ce que j'appelle l'inceste d'État, c'est-à-dire que un livre sort, il crée une vague de témoignages sans précédent, on va créer une commission, faire un coup de projecteur, créer un spot publicitaire avec marqué « on vous croit », voilà, dire que c'est la fin, voilà, voilà, on met les moyens, on vous écoute, allez, c'est bon, le président de la République, hein, sur TF1, plateau TV, dit « maintenant on vous croit », donc évidemment que les victimes, elles y croient, sauf que, voilà, 2 ans de travaux, 82 recommandations au gouvernement, et c'est ce que je dis dans ce livre, où j'actualise absolument toutes les données que je peux autour de l'inceste, j'ai interviewé, évidemment, la nouvelle gouvernance de la Civise sur ces 82 recommandations au gouvernement. Aujourd'hui, il n'y en a que 23 qui sont officiellement appliquées. Voilà, si on fait le ratio, encore une fois, c'est une vaste blague. Et surtout, moi, ce que je mets souvent en avant, c'est que la Civise en 2023, c'était 4 millions de budget. Aujourd'hui, c'est 1 million de budget. La Civise, à l'époque, à l'ère d'Edouard Durand, c'était une équipe à peu près de 15 personnes à mi-temps, ou voilà, en tout cas, vraiment avec un budget, du temps imparti pour faire tout ça. Aujourd'hui, c'est deux équivalents temps plein, et tout le reste, ce sont des bénévoles, dont le collège directeur de la Civise. Donc, voilà, le bureau, l'équipe censée faire fonctionner cette commission. Donc, encore une fois, ça montre tout le désintérêt politique autour de l'inceste et de ses conséquences, et de à quel point on n'a pas envie de se battre, en fait.
La volonté de ne pas s'en occuper, effectivement. Enfin, à la fin de votre ouvrage, vous écrivez « À trop vouloir ne pas prendre parti, on devient complice de l'ordre établi ». Vous avez l'impression d'avoir touché la fameuse limite de la position de journaliste neutre qu'on nous apprend en école, qu'on nous apprend dans les rédactions ?
Oui, non mais complètement, et j'ai du mal à écrire ce chapitre parce que c'est un chapitre où j'assume pleinement effectivement le fait de refuser cette soi-disant éthique journalistique. Je crois en l'inverse, je crois précisément que quand on fait du journalisme comme je le fais, donc c'est-à-dire sur le temps long de l'investigation, qu'on réunit des centaines de dossiers pour pouvoir démontrer l'ampleur systémique d'un crime, d'un fléau, et notamment étatique, et ben en fait, on ne peut pas prétendre à la neutralité, parce que la neutralité, en fait, justement, on l'a brisée, on a bien vu qu'effectivement, non, il y a quelque chose à dénoncer, donc pourquoi vouloir être neutre ? Pourquoi chercher à l'être alors même qu'on a tous les ingrédients pour démontrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ? Alors, on pourrait me dire que ma définition, là, en tout cas dans ce que je laisse apparaître, n'est pas la bonne de cette neutralité. Je prends toujours de la hauteur par rapport à, évidemment, toutes les émotions que peuvent... qu'on peut sortir de soi-même, de ses dossiers, de cette enquête, etc. Pour voilà, avoir la tête froide quand j'écris, etc. Mais par contre, voilà, je dénonce quelque chose qui existe et je le documente pour qu'on puisse lutter contre. Je crois qu'on ne doit pas avoir peur de se tourner vers des sujets avec le cœur. Déjà, ça, c'est très important. S'il y a des journalistes ou futurs journalistes qui nous écoutent, très très important. En fait, on vous dit souvent, voilà, faut pas aller trop proche des sujets qui nous touchent, etc. Vous ne ferez jamais des meilleurs sujets que lorsque vous y croyez vraiment, en fait. On le voit de plus en plus, des podcasts écrits à la première personne, des livres écrits à la première personne, etc. Et pourtant, ça reste des enquêtes fondamentales et très rigoureuses, etc. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère où on sort un petit peu de tout ce qui était établi et dicté, notamment par des hommes dans les écoles de journalisme. Et voilà, on assume un peu plus qui on est, ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, quoi. Stop, en fait.
Voilà, ça fait du bien entendre en fin d'émission, ça. C'est la fin de cette émission. Ça passe toujours trop vite. Merci beaucoup, Romane Brizard, de vous être jointe à nous. On était très heureuse de vous avoir avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que votre livre « Inceste d'État, quand la justice livre les enfants victimes à leurs bourreaux » publié aux éditions Stock en octobre dernier est disponible dans toutes les librairies. Allez en librairie indépendante, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On revient le 20 janvier prochain pour une nouvelle émission. On vous dit à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous en cette fin d'année. Salut tout le monde. Thank you.